Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Chers amis, auditrices, auditeurs de Radio Présence, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission de Stella Maris. Depuis plusieurs semaines, nous marchons au rythme des mystères douloureux à l'école de Marie, pèlerine d'espérance. Nous avons contemplé dans la première chronique l'agonie de Jésus à Gethsémani. Ce moment d'abandon total où Marie, unie à l'angoisse de son fils, nous enseignait à dire oui dans la nuit. Puis, dans la deuxième, la flagellation nous a révélé avec Marie comment offrir nos souffrances, les plus physiques ou les plus morales, pour qu'elles deviennent fécondes. La troisième chronique, enfin, nous a introduit dans la profondeur du rejet et de l'humiliation avec le couronnement d'épines, où Marie, blessée dans son âme, nous apprenait à ne pas répondre au mépris par la haine, mais par le silence et le pardon. Et aujourd'hui, nous avançons encore, et vous comprenez que nous parcourons là les mystères douloureux du Saint-Rosaire. En ce temps de grâce qui nous oriente vers la lumière pascale. Eh bien, nous avançons. Nous quittons les salles du palais pour emprunter la route escarpée du calvaire. C'est le temps du chemin, le temps du poids, le temps du pas après l'autre. Jésus, chargé de sa croix, avance, il tombe, il se relève, il continue. Marie, elle, suit. Elle ne porte pas le bois, mais elle porte l'essentiel, la présence, l'espérance, l'amour silencieux qui relève. Aujourd'hui, méditons ensemble ce quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, suivre Jésus dans l'épreuve avec Marie. Car nous aussi, chaque jour, nous portons des croix, petites ou grandes. Mais nous ne sommes pas seuls. Je vais rester dans le même schéma que les précédentes chroniques, avec comme invité la sœur Emmanuelle Maillard, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer deux fois lors d'un pèlerinage. Merci à Franck Guéret pour sa collaboration technique. Eh bien, Jésus sort du prétoire. Il ne voit presque plus rien. Son visage est couvert de sang, ses yeux gonflés par les coups, ses genoux déjà vacillants. On lui jette une lourde poutre sur l'épaule, la traverse de la croix. Il titube, il avance, il tombe. Personne ne l'aide, ou presque. Le silence de la compassion est noyé dans les cris de la haine. Mais dans la foule, un regard le cherche, un regard le suit, celui de Marie, sa mère. Elle ne peut pas s'approcher, elle ne peut pas le toucher, mais elle est là. Elle marche, elle pleure en silence. Elle soutient, elle accompagne. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, versets 16 et 17, nous lisons ceci. Il prit donc Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit vers le lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Jésus n'est pas escorté par des amis. Il marche seul. Dans l'humiliation, entouré de soldats indifférents et d'une foule moqueuse. Ce n'est pas seulement un supplice physique, c'est une épreuve de solitude extrême. Il porte la croix des hommes, mais aussi leur indifférence, leur ingratitude. Il porte ma croix, mon indifférence, et parfois mes ingratitudes envers Dieu. Il porte le poids de notre péché, de notre tiédeur, de nos reniements silencieux. Il porte aussi ce que chacun de nous vit, l'abandon, l'incompréhension, le fardeau du quotidien. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, nous lisons ceci. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Sur cette route, chaque pas de Jésus sanctifie les chemins escarpés de chacune de nos vies. Il rend sacrés nos fatigues, nos incompréhensions, nos combats. La tradition spirituelle parle de trois chutes de Jésus. Elles ne sont pas anecdotiques. Elles sont sacramentelles. Elles disent notre propre faiblesse, nos retours à terre, nos limites humaines. Jésus tombe, oui. Le Fils de Dieu s'écroule dans la poussière, mais il se relève, il reprend sa croix, il repart. Saint Jean Chrysostome disait, il est tombé pour sanctifier nos chutes. Il s'est relevé pour nous apprendre à ne jamais rester à terre. Cela veut dire que le juste peut tomber. Mais la sainteté, c'est de se relever. Tomber dans une épreuve morale, dans le découragement, mais ne pas rester là. Jésus marche pour nous, avec nous. Et Marie, que fait-elle ? Marie, la mère qui accompagne et qui porte autrement, la croix. Marie ne porte pas le bois de la croix, mais elle porte son fils dans sa chair de mère. Chaque pas de Jésus est une lame dans son cœur. Mais elle ne s'effondre pas, elle ne crie pas, elle marche, elle soutient. Elle est la présence fidèle dans l'épreuve, elle est l'espérance silencieuse qui avance dans la nuit. Je voudrais bien citer Saint Bernard de Clairvaux, un dévot de Marie, qui dit ceci, « Marie ne portait pas la croix de bois, mais elle portait bien davantage. Elle portait le crucifié dans son âme transpercée. » Eh bien cela, Marie devient pour nous un modèle. Quand notre croix est lourde, quand nous n'avons plus de force, quand les autres ne comprennent pas notre douleur, quand nous avons honte de tomber une fois de trop, Marie est là. Elle marche avec nous. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle nous apprend à tenir bon, à continuer à espérer. Eh bien, portons nos croix au cœur de Marie. Elle nous aide à les porter. C'est ce que nous avons médité pendant tout ce temps de grâce qui nous conduit dans la nuit de Pâques. Je vais m'arrêter là pour cette première partie et nous allons retrouver la sœur Emmanuelle Maillard qui va nous parler de comment sortir du désespoir et offrir à Dieu sa souffrance.
Quand on a une souffrance, que ce soit une maladie, un deuil, quelque chose qui fait mal, il y a une blessure qui s'ouvre en nous. Et cette blessure fait mal et elle saigne et elle nous rend vulnérables, elle nous rend hypersensibles, elle nous rend quelquefois fleur de peau. Et il y a deux personnes qui s'approchent de cette blessure. Il y a d'abord Satan qui vient. Lui est toujours là pour rôder. Et donc il vient et son but, il est très content de nous trouver vulnérables, son but c'est de profiter de cette vulnérabilité, cette faiblesse, disons, pour infecter notre blessure. Et tout médecin vous dira qu'une blessure, ça se soigne, mais une blessure infectée, c'est dangereux. Donc il va infecter notre blessure pour qu'elle soit insupportable. Et comment va-t-il faire pour infecter la blessure? Il a beaucoup de poisons dans sa poche pour nous les inoculer. Et donc ces poisons, comment est-ce qu'il va nous les inoculer dans la blessure? Par un langage assez suave qui va caresser quelque chose en nous et qui va donc nous détruire. Et il prend une petite voix qui a l'air gentille, comme ça, logique, hein, pour suggérer à notre conscience ses propres sentiments et ses propres pensées. Je vous donne un exemple. Le désespoir. Lui, c'est le désespéré par excellence. Donc il va nous dire, « Ah, tu sais, ça fait tellement d'années que tu souffres, avec tout ce que tu as déjà supporté. » Alors, avec ce nouveau coup-là, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver, trop c'est trop. Tu devrais retirer ta vie, tu devrais te suicider. Parce que si tu te suicides, tu vois, en quelques minutes, la souffrance sera finie, on n'y pense plus et on est bon. Voilà. Logique, hein, logique, logique de Satan. Donc, désespoir. Ça peut être la haine. Tu vois, cette personne qui t'a fait tant de mal, là, dire tellement injuste. Sois bien sûr de la détester en retour. Faites tout pour détruire sa réputation, sa famille, sa santé. Faites tout pour la dégommer vraiment parce que cette personne mérite de souffrir encore plus que toi avec ce qu'elle t'a fait. Voilà, la haine. Ça peut être aussi le doute de l'amour de Dieu, ça c'est très fréquent. Mais qui est ce Dieu, il va nous dire, mais qui est ce Dieu qui t'a envoyé cette épreuve? Tu croyais peut-être que Dieu t'aimait, mais mon pauvre. Hein, tu te fais un vélo, là, tu te fais un film. Tu crois quand même pas que Dieu, avec les milliards de personnes qu'il a, il va prendre intérêt avec toi. Tu vois même pas, faut pas rêver. Hein, il a pas le temps pour toi. Doute de l'amour de Dieu. Tu devrais arrêter la messe, les prières, tout ça. Regarde dans quel état ça t'a mis. Voilà, doute de l'amour de Dieu. Alors, bon, je pourrais continuer comme ça, la jalousie, l'amertume, tout ça. Alors, mes chers frères et sœurs, n'écoutez jamais ce langage. Jamais. Pourquoi? Parce que si vous écoutez ce langage, vous allez souffrir encore plus, et vous allez complètement perdre la paix. Parce que ce langage vient de Satan qui veut vous détruire. Alors, comment reconnaître que ce langage vient de Satan? Parce qu'il fait semblant de que ce soit votre propre conscience qui parle, vos propres sentiments, vos propres... Hein, il se rend invisible, il se mélange avec votre conscience, c'est sa technique. Alors, comment faire pour reconnaître sa voix? C'est très facile, heureusement c'est très facile. Il vous suffit de bien fréquenter l'Évangile pour absorber l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Christ qui est révélé dans l'Évangile. Or, vous allez comparer la pensée que Satan vous injecte avec les paroles du Christ et vous allez vous demander, dans cette comparaison toute simple, est-ce que Jésus me dirait « t'as déjà assez souffert comme ça, maintenant faut te suicider » Est-ce que vous voyez Jésus vous dire ça? Non, allez, hop, dégagez, je ne veux pas de cette pensée. Dégagez, c'est pas de Dieu. Vous voyez comme c'est facile. Est-ce que Jésus vous dirait, oh, tu sais, pas se faire d'illusions, mon père, il n'a pas de temps pour toi. Jésus ne dirait jamais ça. Allez, dégagez, je ne veux pas de cette pensée. Est-ce que Jésus vous dirait, faut que tu haïsses ton ennemi et que tu te venges? Pas du tout, il a dit le contraire. Allez, dégagez, je ne veux pas de cette pensée. Et comme ça, vous avez fait un discernement. Et comment faire pour vous débarrasser de ce poison, disons, que Satan veut vous injecter dans la blessure, eh bien, vous faites un acte de liberté et de courage. Vous allez dire, Seigneur Jésus, tu vois, cette pensée que j'ai là, que je dois me suicider, elle n'est pas de moi, elle est de l'autre, et je n'en veux pas. Donc je déconnecte, même si ça vous hante encore, parce que Satan, il est bon pour nous donner même des obsessions. Je déconnecte, Seigneur, cette pensée, même si elle me vient comme ça malgré moi, elle n'est pas à moi, je la refuse, je la rejette, parce qu'elle vient de l'autre, elle ne m'appartient pas. Et Seigneur, je choisis ton esprit par-dessus cette pensée-là. Je choisis ton esprit, celui de l'Évangile. Et vous avez fait une belle victoire dans la tentation. Est-ce que vous me suivez?
Oui.
Alors, je vous disais qu'il y a deux personnes qui s'approchent de votre blessure. Évidemment, la deuxième personne, c'est Jésus, heureusement pour nous. Et alors, lui, son langage va être complètement différent. D'abord, Satan fait beaucoup de bruit. Il est agité, il est agressif, et en même temps il peut se faire très suave comme ça pour se faufiler, il est tout à fait bon pour imiter les gens. Alors Jésus va nous parler dans le silence du cœur. Jésus ne va jamais nous parler dans les vagues, dans l'agitation, dans le manque de paix, dans la confusion, non. Jésus, pour nous parler, ça va sortir du profond de notre cœur quand on prie avec le cœur, quand on s'en recueille, quand on prend un silence dans l'intimité avec le Seigneur. Là, je ne dis pas qu'on va entendre sa voix avec nos oreilles, mais en tout cas, on va entendre, disons, son murmure dans notre cœur. Comme Jésus l'a dit à même sœur Faustine, il a dit « Ma fille, sache que je parle à toutes les âmes. Mais rares sont les âmes qui entendent le murmure de ma voix. » Parce que nos propres pensées, tout notre cinéma intérieur et le bruit extérieur de ce monde actuel nous distrait. Et on a du mal à entrer dans le tabernacle de notre cœur pour retrouver le Seigneur et la voix, comme Jésus dit, le murmure de ma voix. Vous voyez ? Donc dans une très grande intimité, on va entendre le... Et qu'est-ce que Jésus va nous dire ? Jésus va nous dire, n'aie pas peur, comme il l'a dit 365 fois dans la Bible, hein. N'aie pas peur, mon enfant, je suis avec toi. Et tu vois, regarde mes mains, mes pieds, mon côté, regarde comme j'ai souffert moi aussi. Je comprends ta souffrance. Il va même ajouter, ta souffrance est aussi la mienne, comme la Vierge Marie nous l'a dit un jour, pendant la guerre. Ta souffrance est aussi la mienne, je la partage. Mais ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que toi et moi ensemble, on va y arriver. Abandonne-toi complètement à moi. C'est à moi d'y penser. C'est mon problème, c'est pas le tien. Abandonne-toi complètement à moi. Et si Jésus voit qu'on accepte de s'abandonner, il va nous demander une faveur très importante qui va tout changer. Il va nous dire, mon enfant, donne-moi ta blessure. Offre-moi ta souffrance, ta maladie, ton deuil, ton malaise. Donne-moi ta blessure. Et si j'accepte de donner ma blessure à Jésus, il va prendre le cadeau. Et non seulement il va prendre le cadeau, mais il va trouver ce cadeau d'une extrême valeur, infiniment précieux pour lui, ce cadeau. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ce cadeau ? Qu'est-ce qu'il va faire de ma blessure ? Il a son plan. Il va mettre ma blessure sur sa blessure du cœur, le cœur transpercé de Jésus. De sorte que ma blessure et sa blessure se fondent en une seule blessure, pour que je sois complètement unie à lui. Et là, c'est lui qui fait cette opération-là, il a pris le cadeau que je lui ai donné. À partir de maintenant, cette blessure, elle est à lui, je l'ai donnée, elle n'est plus à moi, et il s'en sert.
Eh bien, merci à la sœur Emmanuelle Maillard pour ces indications. Oui, ce sont des indications pratiques pour que nous puissions savoir offrir à Dieu nos moments d'épreuve et de souffrance. Dans cette troisième partie de notre rencontre, je voudrais voir avec vous comment suivre Jésus dans l'épreuve avec Marie. La croix fait partie de la route du chrétien. Non pas comme un fardeau fatal, mais comme un lieu de passage, de transformation, de grâce. Mais alors, comment la porter sans qu'elle nous écrase? Comment traverser l'épreuve sans devenir amère? Comment garder l'espérance quand tout semble s'effondrer? Il n'y a qu'une réponse. Marcher avec Marie. Accepter la croix sans la fuir. Reconnaître son poids et sa fécondité. Oui, qui n'a jamais dit « Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi moi ?» ou encore « Je n'en peux plus ». La croix est rude, elle fait mal, elle épuise. Et pourtant, c'est par elle que Jésus a sauvé le monde. Saint Luc, dans son évangile, au chapitre 9, verset 23, nous dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ce sont les paroles de Jésus rapportées par Saint Luc. Mais attention, Jésus ne dit pas « chercher la croix ». Il ne glorifie pas la souffrance en elle-même. Il invite à l'assumer, quand elle se présente bien sûr, dans l'amour. dans la foi, qu'il prenne sa croix, non pas aller chercher la croix. Accepter la croix, ce n'est pas se résigner, c'est choisir de croire qu'en elle se cache une fécondité. C'est espérer que dans la nuit, une aurore est déjà en germe. Charles de Foucault, dont nous avons parlé dans une autre chronique, disait justement, je cite, « Une croix acceptée avec amour devient lumière pour le monde. » Oui, une croix acceptée avec amour devient lumière pour le monde. Et Marie, elle n'a pas reculé devant le chemin du calvaire. Elle aurait pu dire « Je ne veux pas voir cela, c'est trop dur. Je préfère me souvenir de lui au jour de l'Annonciation. » Mais non, elle est restée fidèle. Elle a marché. Et par sa fidélité silencieuse, elle a partagé l'œuvre du salut. Chacun de nous porte une croix, une blessure, un rejet, une maladie, un combat caché. Et si nous les portions comme Marie, en offrant, en espérant, en tenant bon, alors notre croix ne nous écraserait plus, elle nous élèverait. L'une des plus grandes tentations dans la souffrance, c'est de croire qu'on est seul. Seul à porter, seul à comprendre, seul à prier, seul à pleurer. Mais non, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. C'est ce que nous dit l'évangéliste Saint Jean au chapitre 19, verset 25. Près de la croix se tenait sa mère. Ce verset apparemment discret est d'une force inouïe. Marie ne crie pas. Marie ne se débat pas. Marie ne fuit pas. Elle se tient là, debout, fidèle, brisée, mais forte. Brisée par la douleur, forte par l'amour. Sainte Élisabeth de la Trinité écrit « Marie est restée debout au pied de la croix parce qu'elle était toute habitée par la foi. » Et cette foi, cela ne la garde pas pour elle. Elle ne tient pas cela pour elle. Elle nous la transmet. Elle nous l'offre comme un manteau dans le vent glacé de l'épreuve. Tu souffres? Tu peines? Tu doutes? Marie est là. Pas comme une image pieuse, mais comme une idée consolante. Mais comme une présence vivante, réelle, maternelle. Tu peux l'inviter dans ton épreuve, comme on appelle une mère dans la nuit. Nous l'avons entendu aussi de Sœur Emmanuelle Maillard tout à l'heure. Marie, viens, reste avec moi, tiens ma main, et tu verras, même si la croix ne disparaît pas, elle devient plus légère, car elle est portée à deux. Eh bien, je voudrais finir avec cette belle prière. Marie, compagne des chemins de croix. Ô Marie, toi qui as marché derrière ton Fils sur le chemin du calvaire, apprends-nous à avancer dans nos épreuves sans nous révolter. Aide-nous à accepter notre croix, à la porter avec amour et à croire qu'elle peut porter du fruit. Marche avec nous comme tu as marché avec lui. Soutiens-nous, relève-nous, console-nous et mène-nous jusqu'au matin de la résurrection. Amen. Merci à Frankie Guéret qui nous accompagne à la technique. Portez-vous bien, que Dieu vous garde.